Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode de Hashtags. Hashtags, si vous nous découvrez aujourd'hui, c'est le podcast qui vous parle des réseaux sociaux. Et comme d'habitude, je suis avec Stéphane. Bonjour Stéphane, comment ça va?
Salut Thomas, je vais bien et toi?
Bah écoute, ça va. On enregistre à un moment où il se passe beaucoup de choses en ce moment dans l'actualité des réseaux sociaux. Donc on enregistre après avoir pris le temps de lire quelques articles, mais c'est vraiment de l'actualité toute fraîche et ça veut dire que je vais me dépêcher à monter l'épisode et à le publier. On fait la petite page Covid météo comme d'habitude. Comment ça se passe du côté de New York en ce moment?
Alors la partie Covid, ça va de mieux en mieux, donc je pense qu'on va pouvoir réouvrir la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc pour New York, c'est plutôt pas mal, sachant où est-ce qu'on était il y a quelques semaines encore. Et au niveau de la météo, ça commence à être dur là. C'est humide, il fait chaud. Ouais, c'est pas évident. Mais sinon ça va.
Ouais, bah bon
Et
courage. Bon courage. Bah ouais, nous, Seattle, l'état de Washington, donc juste au coin en haut à gauche sur la carte. Nous, on est toujours confinés aussi, mais bon, comme on est, c'est un peu moins dense que vers chez vous, on va dire que le confinement se passe quand même beaucoup mieux. Mais ouais, pas tellement de changements pour l'instant prévus. On n'a pas encore eu les annonces. Je sais que San Francisco, a priori, devrait commencer à déconfiner début juin, si ça n'a pas déjà commencé. Mais nous, je pense que ça va durer encore un peu plus longtemps, donc voilà, je pense qu'on se prépare à bosser de la maison, en tout cas pour le reste de l'été. Et puis côté temps, bah ouais, c'est l'été aussi, mais nous c'est bien, il fait beau, il fait jour longtemps et il y a un petit peu de vent là, donc c'est assez idéal en fait l'été ici et on a hâte d'essayer d'en profiter en dépit du confinement. Donc voilà, ça y est.
Vous avez pas vraiment d'humidité à Seattle, non?
Non, c'est vraiment idéal ici. Il y a pas de problème d'humidité. On est vraiment bien. C'est l'été en fait ici. En gros, ça a commencé un peu plus tôt que d'habitude, mais en général, on dit ici que l'été commence début juillet. Ça veut dire qu'il y a souvent de la pluie même en juin, et ça se termine la dernière semaine d'août. Donc, faut pas rater son coup. Ça dure pas très longtemps. Mais l'été ici est vraiment génial, quoi. C'est un peu comme un été en Normandie en fait. Ça doit te parler, Stéphane. C'est exactement ça. Cool. Donc il fait beau, tout est vert, ça fait plaisir, il y a du soleil, grand ciel bleu. Donc voilà, on espère que ça va durer. Voilà, donc ça c'était l'aspect météo Covid. On parle de Trump.
Allez.
Il y a un petit délai. Comment tu dis?
Ouais, je disais parlons de Trump.
Parlons de Trump. Bon, alors Donald Trump, donc on le présente plus, hein, le président du pays dans lequel on vit, toi et moi. Trump, hein, il parle beaucoup sur Twitter et il utilise beaucoup Twitter. Et il y avait en fait une espèce de, comment dire, une espèce de règle qui faisait que globalement, Trump jusqu'à maintenant et depuis son élection, voire même depuis le début de sa campagne, avait été entre guillemets laissé un peu tranquille par Twitter. Il y a beaucoup de gens qui à une certaine époque se plaignaient du fait que finalement si on regarde les conditions d'utilisation dans le détail de Donald Trump, enfin de Twitter plutôt, Donald Trump a tendance à enfreindre assez régulièrement les conditions d'utilisation en termes de d'harassement, en termes de propagation de fausses nouvelles, etc., etc. Mais on va dire que jusqu'à maintenant, il avait été laissé globalement tranquille. Et je dis jusqu'à maintenant parce que ça a changé hier quand le réseau social Twitter a décidé donc de flaguer, entre guillemets, comme on dit, ou de marquer, on va dire, pour le dire de façon un peu plus formelle, de marquer un des tweets comme méritant d'être fact-checké. Hein,
du coup, deux tweets, en fait.
Deux tweets, ouais, c'est ça, deux tweets à la suite qui méritaient d'être fact-checkés. Donc ce qu'on entend par là, c'est vérifier les faits. Et donc ça veut pas complètement dire qu'il le traitait de menteur, mais c'est, on va dire, aussi loin qu'on peut aller avant de le traiter de menteur. Et donc il s'avère que Trump n'a pas du tout apprécié, et donc aujourd'hui, il a annoncé la signature d'un executive order. Donc un executive order, c'est l'équivalent d'une ordonnance présidentielle, je pense que c'est ça, je suis pas juriste, mm-hmm. Mais je crois que c'est un peu ça l'idée. On va rentrer dans les détails dans 5 minutes, mais en gros, l'executive order qu'il a signé en fait impose une certaine responsabilité des réseaux sociaux de façon générale, et donc de Twitter en particulier, en termes de responsabilité engagée par rapport à ce que les gens peuvent écrire sur les réseaux sociaux. Et il y avait une certaine flexibilité, on va dire, qui existait jusqu'à maintenant. Et l'executive order vient un peu à l'encontre de ça, sachant qu'il y a plein de choses qui doivent se passer avant que cette executive order ou l'impact de cette executive order soit ressenti. Mais on va détailler ça dans 5 minutes. Mais déjà, le contexte, Stéphane, tu nous rappelles un peu les tweets en question qui ont été marqués comme méritant d'être fact-checkés.
Alors, en fait, donc Trump et pas mal de républicains, en fait, ont cette idée que aux États-Unis, on peut voter par courrier. Et donc quelques républicains et Trump pensent que ce moyen de voter par courrier est prône à de la fraude, en fait. Et ils pensent que des gens qui ne sont pas censés pouvoir voter vont recevoir ces bulletins de vote et vont pouvoir du coup les renvoyer. Ils pensent aussi que certaines personnes qui sont censées les recevoir, mais qui eux vont décider d'aller voter d'eux-mêmes, et ben en fait quelqu'un peut intercepter ces courriers et du coup voter à leur place, ou du coup leur vote sera compté deux fois. En fait, il y a pas mal de conspiracy theory qui tourne autour de ça, en pensant que finalement en permettant aux gens de voter par courrier, ben les élections sont truquées, et en particulier celles qui arrivent cette année à la fin de l'année en novembre, donc l'élection présidentielle. Et en fait, le truc, c'est que le fait de pouvoir voter par courrier, c'est pas quelque chose de nouveau aux États-Unis, c'est quelque chose qui date de très très longtemps. Donc en fait, il n'y a aucune raison pour que ce soit vraiment prône à la fraude. Et d'ailleurs, les élections présidentielles dernières, voter par courrier, c'était déjà possible.
Pour ajouter, excuse-moi, je t'interromps. En fait, il se plaint d'une généralisation du vote par courrier, parce que l'élection, si vous l'aviez oublié, l'élection américaine a lieu en novembre de cette année. Et on se doute qu'il y aura potentiellement encore un problème, peut-être un nouveau confinement lié au Covid, et que du coup on veut donner la possibilité à tous les gens, tous les électeurs de voter, et donc de façon préemptive, en fait, la Californie a annoncé qu'elle avait l'intention d'envoyer un bulletin pour voter, sachant que les élections se passent un petit peu différemment ici par rapport à ce qu'on peut connaître en France. Envoyer donc un bulletin pour voter à tous les électeurs inscrits, électeurs éligibles entre guillemets, en Californie. Et c'est là où en fait le fact-check est un peu problématique, parce que Trump a dit que des bulletins allaient être envoyés. Donc non seulement, je pense que c'était ce à quoi tu allais venir, non seulement il a dit qu'il y avait des fraudes liées au vote par courrier, ce qui jusqu'à maintenant n'a jamais été réellement prouvé. Alors il y a probablement des cas à droite et à gauche où il y a qui sont problématiques, mais affirmer qu'il y a une fraude généralisée liée au vote par courrier, c'est juste pas vrai, en fait. Et au-delà de ça, affirmer que la Californie donnait la possibilité de voter à tout le monde, y compris les gens qui ne seraient pas des électeurs qualifiés, c'est aussi faux, puisque les bulletins sont envoyés uniquement aux gens qui sont enregistrés comme voteurs, comme votants.
Exactement. Et donc du coup, Twitter a une série de règles qui touchent sur tout ce qui est la suppression de vote et tout ce qui est la manipulation de... En gros, sur Twitter, on ne peut pas donner de fausses dates pour une élection. On ne peut pas dire à des gens qui peuvent aller voter à un endroit où c'est pas possible d'aller voter. On ne peut pas leur dire que des candidats se présentent alors qu'ils ne se présentent pas. Et on ne peut pas non plus dire que certains moyens de vote ne seront pas comptés ou ne sont pas aussi valides que d'autres. Et donc, en se basant sur ces règles, que Twitter avait déjà écrit bien avant les tweets de Trump, Twitter a ajouté ces mentions en dessous des tweets, disant que ce que Trump tweetait n'était pas vrai. Et donc, du coup, vu que c'était la première fois que ça arrivait, ça a un peu déclenché la colère de Trump. Et donc, ça s'est passé hier. Et aujourd'hui, il a décidé d'écrire cet executive order pour une, c'est une vengeance en fait finalement. C'est Twitter m'attaque, alors j'attaque Twitter. Mais ceci dit, l'executive order, il change pas énormément de choses puisqu'il est juste là pour ouvrir la voie à une législation, je crois. Donc c'est dans l'immédiat, il n'y a pas vraiment grand chose qui change, mais ça donne de nouveaux pouvoirs à la FCC, qui est une organisation qui est là pour réguler tout ce qui est lié aux communications aux États-Unis. Et donc ça leur donne ce nouveau rôle de revoir un peu cette loi qui protège les réseaux sociaux de poursuites judiciaires. Et donc du coup, maintenant on a des questions qui se posent qu'on ne se posait pas forcément auparavant, même si dans les médias ça change rien.
Ouais, voilà. Et donc en fait, c'est là où il faut peut-être prendre le temps d'expliquer justement ce que c'est que cette histoire de section 230. Donc l'idée en fait, c'est un truc dont on entend souvent parler hein, quand on suit le monde de la tech. Il y a beaucoup de gens qui parlent du fait que finalement les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter en particulier, ont pu se développer un petit peu sous la protection de cette histoire de section 230. Et on a à peu près l'équivalent en France, et on va en parler dans une autre actualité aussi liée aux réseaux sociaux tout à l'heure. Mais en gros, l'idée de la section 230 du Communication Decency Act, qui est donc une loi en fait qui a été passée en 96, donc ça remonte à il y a un bon moment, c'est de faire la différence entre ce qui était à l'époque un peu les proto-réseaux sociaux, donc c'était plutôt les forums et compagnie, et un journal par exemple. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand on crée une plateforme et qu'on donne la possibilité aux gens de s'exprimer. Donc dans la loi, il parle de Interactive Computer Service, donc c'est un service informatique interactif. Donc voilà, on était en 96 encore une fois, c'était il y a bien longtemps. Et donc du coup faire la différence entre un endroit où n'importe quel utilisateur peut se créer un compte, se loguer et puis publier des informations qui sont visibles par tout le monde. C'est quand même un contexte qui est un petit peu différent d'un journal où les journalistes ont une charte de déontologie à suivre, ont une carte de presse, donc ont en théorie un certain nombre de règles à suivre, et puis sont aussi salariés ou en tout cas employés par le journal qui publie leurs articles. Donc du coup, en 96, cette loi avait été passée pour permettre au forum de se développer et potentiellement ne pas forcer un forum ou un site à fermer parce qu'il y a une personne, un des utilisateurs qui a créé un compte et qui a commencé à écrire des choses qui sont condamnables ou pour lesquelles qui engage une certaine responsabilité. En fait, la responsabilité... elle est toujours à la personne qui, elle incombe toujours à la personne qui écrit le post. Si vous écrivez, et c'est là où ça devient aussi compliqué parce qu'aux États-Unis, on est dans un pays où il y a le premier amendement qui fait que le gouvernement ne peut pas te condamner si tu exprimes quelque chose qui est lié à ta liberté d'expression. Et donc du coup, ça te donne quand même beaucoup plus le champ libre que ce qu'on a en France, par exemple, où on vous en parle souvent, mais en France, il y a ce qu'on appelle les lois mémorielles par exemple, ou l'incitation à la haine raciale, qui fait qu'il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas dire en public ou que vous ne pouvez pas écrire sur un réseau social, ou en tout cas si vous le faites, vous pouvez être condamné. Aux États-Unis, ça n'existe pas, on peut pas, à quelques exceptions près, on peut pas vous condamner pour ce que vous dites en public. Mais par contre, il y a un truc aussi qui est important à préciser, qui n'est pas forcément toujours super clair. Le gouvernement ne peut pas vous condamner parce que vous dites quelque chose. Par contre, un réseau social peut très bien décider qu'on n'a pas envie de... il n'a pas envie qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient dites sur sa plateforme. Et donc du coup, c'est pour ça que Twitter a une charte utilisateur. Facebook en a une aussi, même si il est un petit peu moins enclin à la faire respecter dans certains cas. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais dans tous les cas, c'est pas parce que vous avez le premier amendement qui vous protège de l'État fédéral que vous pouvez aller sur une plateforme et écrire ce que vous voulez et demander à ce que ce que vous avez dit au nom du premier amendement reste visible aux vues et aux yeux de tous.
Exactement. Très bonne description de la situation.
Et donc voilà, donc la histoire de section 230, ça a permis aux réseaux sociaux de se développer et de prospérer. Et donc là, du coup, Trump veut en fait faire une sorte d'amende, en fait, enfin dans le sens où amender, pas une amende, pas la noix ou même vous faire payer une prune, mais plutôt amender et modifier un petit peu cette charte 230. Du coup, on parle de... je suis en train d'essayer de retrouver l'article en question. J'arrive plus à retrouver. Mais en gros, il veut... et c'est là où ça va devenir super compliqué. Il veut introduire le concept de bonne foi, en fait. En gros, il permet... il veut permettre aux sites internet et aux réseaux sociaux d'être sûr que la censure, hein, comme il a décrit, résulte de la bonne foi du réseau social. Autant dire, c'est un sujet qui est éminemment politique, mais là ça va être encore plus politique, parce que qu'est-ce que c'est que la bonne foi d'un réseau social quand on a un Trump qui tweet des choses qui sont clairement fausses, en fait, hein, faut dire ce qui est. Et qu'un réseau social vient et dit c'est faux. C'est très compliqué parce qu'il y a énormément de choses qui sont dites et postées constamment sur les réseaux sociaux qui sont fausses. Le problème, c'est que c'est compliqué de mettre une personne ou même des fois un algorithme pour détecter ce qui est faux et l'indiquer comme faux. Mais d'un autre côté, tu peux aussi dire qu'il y a peut-être un petit peu de poids de mesure et qu'il y a des gens qui probablement vont être un tout petit peu plus surveillés que d'autres en fonction de... La quantité de personnes qui les suivent. Donc c'était comment dire, ça va être très très compliqué si cet amendement, enfin cette correction de la section 230 passe. Ça va être très 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 compliqué de la mettre en place et de faire en sorte qu'elle soit respectée, en fait. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Stéphane.
Ouais, et puis en fait cette section, elle protège énormément les réseaux sociaux sur le fait que actuellement, tu ne peux pas poursuivre en justice Twitter si Twitter supprime tes tweets. Mais aussi, tu ne peux pas poursuivre Twitter si quelqu'un tweet quelque chose de faux qui te concerne. Et si amendement il y avait de cet article 230, ça pourrait changer. Et en fait, la première victime, dirais-je, de ce changement, ce serait Trump. Parce que à partir du moment où Twitter est responsable de ce qu'il y a sur sa plateforme, Twitter n'a aucune raison de laisser Trump continuer à tweeter un peu n'importe quoi. Donc du coup, c'est pas très clair. C'est assez confus, cet executive order, parce qu'on sait pas vraiment ce que Trump attend du changement qu'il souhaite obtenir. Et en fait, on se rend aussi compte que finalement, le fait que cette section 230 existe, c'est ce qui a permis l'émergence de Trump. Parce que c'est ce qui a permis le fait d'avoir Trump qui tweet des informations fausses sur d'autres personnes, sans pour autant que ces personnes puissent attaquer en justice
Twitter
et
pouvoir demander ses tweets retirés. C'est ça. Ouais. Et c'est ça, en fait. Enfin, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'en fait, quand on lit ce qui se passe, ça fait un peu... On a un peu l'impression que c'est un coup de billard à trois bandes ou un truc un peu... ils recherchent pas forcément l'effet direct. Ils recherchent plutôt l'effet induit, en fait, avec ces choses-là. En fait, ça, potentiellement, ça rend le boulot de Twitter et de la modération sur les réseaux sociaux un peu plus compliqué qu'il ne l'est déjà. Parce qu'en fait, lui, il se plaint de... en gros, il parle de selective censoring, donc de censure sélective, dans une situation où on se retrouverait avec... Et c'est ce que disent les républicains depuis un petit moment. Ils disent, c'est ces réseaux sociaux qui sont abondamment utilisés par Trump en particulier et ses supporters, c'est des réseaux sociaux qui ont été développés par des gens qui ont tendance à être... bien à gauche, et donc du coup ils nous veulent du mal, ils nous censurent, et donc du coup ils créent un peu à la censure dès qu'il y a quelque chose qui leur plaît pas. Et c'est bien pratique parce que du coup tu te retrouves à ne pas tellement pouvoir les attaquer sur le terrain du contenu, mais plutôt les attaquer sur la forme, dans le sens où ils estiment que tout chose qui viendrait à contester ce qui est dit sur les réseaux sociaux, ça tient à de la censure. Et donc du coup Trump dit ok, vous voulez nous censurer, puisque c'est comme ça, vous devez censurer tout le monde de la même façon, Et donc, du coup, en contraignant un petit peu la section 230 du Communication Decency Act, il leur permet, enfin, il les forcerait, en théorie, être extrêmement, diligent et revoir absolument tout ce qui est posté potentiellement et qui mériterait d'être soit marqué comme fact-check ou alors carrément enlevé parce que ça va à l'encontre de ce qui est défini sur la plateforme.
Du coup, ça va vraiment filtrer tout le côté politique de Twitter, tout le côté activiste aussi de ces réseaux. Donc, du côté progressif comme du côté républicain. Et donc, du coup, finalement, Twitter, si vraiment il devait censurer, pour se protéger d'ailleurs, hein, tout tweet, toute information ou toute interaction qui pourrait être remise en question, et finalement, on va se retrouver avec un réseau social qui n'a plus vraiment de portée politique ou activiste. Et la première victime de ça, finalement, c'est le Parti républicain aux États-Unis, en fait.
Ouais, sachant que, encore une fois, c'est un peu un coup de bluff, parce que je pense que ce sera très 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 compliqué de mettre en place ce genre de mesures pour Twitter. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura soit beaucoup plus de tolérance, et donc, du coup, quasiment rien ne sera marqué comme méritant d'être fact-checké, ou alors, comme tu dis, ça va être super, super censuré, mais donc, du coup, oui, faut s'attendre à ce que Twitter ne soit plus aussi, ce soit plus la plateforme qui existe aujourd'hui, mais ça, j'ai quand même vraiment beaucoup de doutes. Et puis, on parle aussi d'un monde dans lequel cette executive order soit mis en place et sanctionné par une loi, potentiellement, ou pas contesté en justice. Et on a vu que Trump a quand même l'habitude de faire des grandes annonces d'executive order qui sont, après quelques semaines de contestation sur le plan juridique, sont un peu oubliées et passent un peu à la trappe. Donc je pense que c'est un peu ouais, ce qui va se passer. Il voulait faire un effet d'annonce, il a réagi dans les 24 heures. On en parle aujourd'hui, on en parle beaucoup. Mais moi, je ne serais pas complètement surpris. Et c'est beaucoup ce qui se dit, d'ailleurs. Je sais qu'il y a les commissaires de la FCC qui se sont exprimés et qui disent que, globalement, ça ne fonctionne pas, ça ne tient pas la route, cet executive order. Et ce ne sera pas la première fois que ça arrive. Donc voilà. Donc, à voir un petit peu comment les choses se passent. Et d'ailleurs, un truc que je voulais juste préciser au début, donc le fait qu'ils s'attaquent, on l'a dit, en fait, le fait qu'ils s'attaquent au mail-in ballots, comme on dit, donc les bulletins de vote qui sont envoyés par courrier, le vote par courrier, c'est deux choses, en fait. C'est, en gros, il dit il y a de la fraude massive. Bon, ça, on a vu que, bon, pour être très honnête, c'est complètement bidon, il n'y a pas de problème de fraude massive. Par contre, le problème, en fait, c'est que ce qui se passe aux États-Unis, c'est que plus il y a de gens qui votent, et moins le Parti républicain a des chances de remporter l'élection générale. Et c'est quelque chose qui se vérifie statistiquement, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Trump a gagné. C'est parce que, globalement, le turnout, comme on dit, donc la participation, était beaucoup moins élevée que d'habitude. Et donc, une participation importante, ça dessert statistiquement, c'est pas une invention, ça dessert le Parti républicain, à tel point que, donc, il y a tout un effort on parle de gerrymandering, c'est l'idée de redessiner les cartes électorales pour pouvoir, en général, bénéficier aux partis en place. Donc, c'est quand c'est les républicains qui sont au pouvoir, ils le font pour que ça bénéficie au Parti républicain. Quand c'est les démocrates, ils le font pour que ça bénéficie aux démocrates. Mais donc, c'est un sport national. D'ailleurs, il y a une super série qui s'appelle Brain Dead qui parle du sujet. Je vous recommande, c'est vraiment marrant. Bref, mais je la mettrai dans les notes de l'émission. Je sais pas où c'est disponible en France, mais si vous avez l'occasion de la regarder, ça vaut vraiment le coup d'œil. Mais donc, ouais, redessiner la carte électorale, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Mais au-delà de ça, en fait, Trump l'a dit lui-même, en fait. Il l'a expliqué. D'ailleurs, c'était un peu un tabou, et c'est la première fois que quelqu'un. Trump being Trump, c'est la première fois qu'en gros quelqu'un est aussi direct et aussi clair, et il dit ouais, clairement, s'il y a un gros turnout, si on a une grosse participation, il y a peu de chances pour que le Parti républicain conserve le pouvoir. Donc, et ça, il ne l'a pas dit, mais c'était sous-entendu, donc il faut tout faire pour que la participation soit la plus faible possible, ou en tout cas, pas forcément essayer de limiter les efforts qui contribuent à une forte participation. Et donc, clairement, sa réaction qui discrédite le vote par correspondance. Voilà, c'est ça le vrai terme en français. Le vote par correspondance, c'est clairement dans ce but-là, en fait.
Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs que Twitter réagit, en fait. C'est parce que ça va clairement à l'encontre de leurs règles sur leur civique. Je sais pas comment ils appellent ça. Civic Integrity Policy, donc leur politique d'intégrité civique. Et en gros, ce sont des règles que Twitter a sur, sur tout ce côté, tout ce qui est autour des élections, tout ce qui est autour de... ou d'autres processus.
Et ça date de l'élection de 2016, d'ailleurs, ce processus-là, de faire en sorte qu'en gros, on ne se retrouve pas dans la même situation qu'en 2016, où les bots prennent d'assaut Twitter et contribuent au basculement de l'élection.
Exactement. Et d'ailleurs, on peut aussi, je pense que c'est aussi intéressant de voir la différence entre Twitter sur ces questions politiques et Facebook, encore une fois, puisque on sait que Twitter n'a plus de publicité politique aujourd'hui et il commence à marquer les tweets de Trump avec ces petits tags de fausses informations. Et aujourd'hui, Mark Zuckerberg, donc PDG de Facebook, a dit que en fait, c'était pas du tout dans le but de Facebook de faire la même chose et qu'ils comptaient bien rester en dehors de tout ça, puisque pour eux, l'expression politique, donc la prise de parole politique est quelque chose de trop sensible dans une démocratie, et donc ils veulent pas dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, et ils préfèrent que les individus fassent leur propre recherche eux-mêmes. Donc on est quand même dans deux approches complètement différentes ici. Et d'ailleurs, cette approche de Facebook qui a été en quelque sorte tweetée par Trump en disant que il y a quelques minutes, Trump a tweeté en disant que voici la réponse de Mark Zuckerberg vis-à-vis de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et tu vois bien que qu'en fait l'approche de Zuckerberg plaît beaucoup plus à Trump que l'approche de Twitter.
Ouais, mais c'est très calculé tout ça. Hein. L'idée, c'est vraiment.
Ouais, enfin.
Ouais.
On sait à quelle mesure la plateforme Facebook a facilité l'élection de Trump. On sait à quelle mesure elle participe encore aujourd'hui, puisqu'il continue d'accepter les publicités politiques. Donc on sait à quel point, aujourd'hui encore, Facebook reste un outil. Très important dans la victoire en 2020 pour n'importe quel candidat, en fait.
Ouais, absolument. Et je pense que c'est aussi pour ça que il met le sujet sur le devant de la scène, et en gros il dit il n'est pas question. Moi, je pense que c'est aussi un peu le profil de Trump en général, qui a tendance à réagir et à montrer les bras dès le début, même si à l'arrivée, comme on le dit, hein, cet executive order, il a encore du chemin à faire avant d'être vraiment mis en application. Mais c'est clair que c'est un sujet qui est assez important et assez essentiel pour la campagne, qui se déroule forcément de façon un petit peu particulière, étant donné la situation liée au Covid. Et puis un autre truc auquel je pensais aussi, c'est on a compté pour la première fois, je crois que c'est hier, on dépasse les 100 000 morts liées au Covid aux États-Unis. Et Trump est assez... ça sent un peu la théorie du complot, la façon dont je le dis, mais malgré tout, Trump est assez coutumier du fait d'attirer l'attention sur un autre sujet quand il y a une actualité qui lui déplaît. Et donc, c'est pas complètement impossible qu'il en ait aussi profité pour se dire « on va tout mettre sur cette histoire de Twitter et au passage, ça va occuper les médias pour parler ce que lui il présente comme une lutte pour la liberté d'expression, entre guillemets, au lieu de s'appesantir sur les 100 000 morts liées au Covid qui a été passé hier ici pour les États-Unis.
Ouais, je pense pas que ça s'était planifié, puisque de toute façon tout ça a été mis en route par une action de Twitter, finalement.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est vrai que
ça tombe à point, aidé, ça tombe à point nommé,
quoi. C'est ça.
Ouais. Donc voilà, et puis au passage, un petit détail, mais c'est pareil, c'est un peu Trump qui fait du Trump, et donc il s'en est pris directement à un des employés de Twitter. Donc il l'a directement attaqué sur Twitter en le traitant de hater et en disant que Je sais plus, il avait dit qu'il y avait littéralement des nazis à la Maison Blanche, donc a priori cet employé Twitter a tweeté quelque chose il y a un petit moment. Et donc il y a les équipes de la Maison Blanche qui ont passé du temps à revoir les tweets de certains employés de la Maison Blanche et en gros les ont mis en exergue un peu pour les placer au pilori et montrer et justifier de façon anecdotique que vous avez vu chez Twitter de toute façon ils nous aiment pas et donc c'est pour ça qu'ils s'en sont pris à nous. Et c'est là où je te le disais en préparant un peu l'émission, c'est là où tu sens que, enfin, on est quand même dans un climat, et c'est pas nouveau, hein, Trump, ça va faire bientôt 4 ans qu'il est au pouvoir, donc c'est pas comme si on se réveillait, mais tu sens quand même que c'est quand même des choses qui sont complètement délirantes, quoi. Enfin, c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a 4-5 ans de se retrouver avec une situation où on a un président qui s'en prend directement à un employé d'une société qui s'est comporté d'une façon qui lui plaît pas. Enfin, on sent que. Les choses sont quand même particulièrement exacerbées et que bah il y a pas forcément de limite quoi. Enfin, c'est des choses qui sont complètement inimaginables. C'est comme je te disais, le système est cassé quoi. Enfin, on sent que le système est cassé et qu'il y a pas forcément grand-chose qui lui permet de rester dans les rails quoi.
Ouais. Disons qu'il reste encore quelques mois et espérons
ouais.
que
mais c'est quand même ouais, espérons. C'est quand même inquiétant. On a fait quasiment une demi-heure sur Trump, donc je te propose qu'on passe à autre chose. On enchaîne, on parle de la France un peu.
Allez, parlons de la France. Qu'est-ce qui se passe en France,
Donc, qu'est-ce qui se passe en France? Donc, je sais pas si t'as suivi, ça m'était un peu passé au-dessus de la tête, pour être très honnête, mais je me suis rattrapé. Je crois que c'est la semaine dernière, il y a la première loi d'ailleurs dans... La première loi post-Covid qui n'a rien à voir avec le Covid, d'après ce que j'ai compris, qui a été passée. Et donc, c'est la loi contre les propos haineux sur Internet, dite loi Avia, qui est nommée du nom de Laetitia Avia, qui est la députée de La République En Marche qui était derrière cette loi. Donc de quoi est-ce qu'on parle en fait? On parle d'une loi comme son nom l'indique, veut lutter contre les contenus haineux sur Internet, et en particulier sur les réseaux sociaux. Donc ça va peut-être vous rappeler quelque chose avec la conversation qu'on vient d'avoir. La différence, on va dire, avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est que nous, chez nous, on a quand même un système législatif assez clair qui encadre le concept de propos haineux. Donc on peut pas, comme l'article Wikipédia le dit, on peut pas punir la haine. Par contre, on peut punir l'incitation à la haine raciale, par exemple. Et donc l'idée, en fait, c'est de mettre en place une loi qui force les opérateurs internet, enfin pas les opérateurs internet, mais disons les responsables de sites internet. Donc ça inclut les réseaux sociaux, mais ça inclut aussi les forums, par exemple. Réagir alors dans les 24 heures quand du contenu pédopornographique ou c'est quoi l'autre terme terroriste est posté sur le site ou je crois que c'est plus longtemps, je sais plus exactement. Donc c'est 24 heures pour contenu pédopornographique et...
Non, en fait, c'est 24 heures maximum. Hein, parce que, et d'ailleurs... non, pour tout ce qui est...
Ah, c'est 24 heures
et une
c'est
heure.
C'est 2 heures. Ah, c'est ça. Donc en fait, ouais, c'est pour ça que je n'avais pas retrouvé. Donc c'est 24 heures pour les contenus haineux et 1 heure pour les contenus haineux et pornographiques d'ailleurs. Et 1 heure pour les contenus pédopornographiques et terroristes. Donc autant dire que c'est quand même assez agressif les contrevenants. Comment ?
Je disais oui, effectivement c'est extrêmement agressif pour des boîtes qui sont par exemple américaines, tu vois, parce que 24 heures c'est une heure c'est si c'est le milieu de la nuit ici, donc tu sais c'est obligé à avoir des équipes un peu des équipes en France en fait
en permanence
pour pouvoir vraiment répondre
ou local ouais. Et donc du coup tu risques jusqu'à 250 000 euros d'amende potentiellement je crois que c'est la CNIL, non c'est pas la CNIL, le CSA, oh, je sais plus Je suis désolé. Désolé, l'article est super long, je me suis un peu perdu. Mais ouais, donc ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial de la plateforme. Donc bon, là, c'est clairement. On parlait de l'agressivité en termes des délais de réaction, mais les enjeux sont aussi assez délirants pour être très clair. 4% du chiffre d'affaires, enfin bon, c'est la mode en ce moment d'ailleurs de faire des sanctions liées au chiffre d'affaires, parce que les sanctions liées aux revenus en fait en ce qui concerne internet, bah ça tombe un petit peu à l'eau, parce que beaucoup de ces sociétés déclarent des revenus en Europe, en Irlande ou aux Pays-Bas au lieu de les déclarer en France. Donc voilà, donc on s'attaque au chiffre d'affaires, c'est un peu à la mode, bon pourquoi pas. Mais bon voilà, on parle quand même d'une loi assez agressive, et en fait on se rend compte, on pourrait dire mais c'est complètement n'importe quoi, on se rend compte que malgré tout c'est une loi qui s'inspire d'une loi allemande. Donc il faut savoir que les Allemands sont un peu les champions du monde en termes de protection de la vie privée. Je dis champion du monde, c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment le cas. Et ont aussi un système. Tu veux que je la dise en allemand, c'est ça? Non, Netzwerk Durchsetzungsgesetz, ou NetzDG, ou DGAO, je sais pas, l'allemand, moi c'était il y a longtemps, je suis désolé. Mais donc du coup, ouais, la loi allemande était globalement assez comparable. Donc c'est une loi qui date de septembre 2017, donc qui est plus ancienne, mais qui date pas non plus de plusieurs décennies.
Effectivement, ouais.
Et on parlait d'une loi, on parle de contraintes, d'amende de 50 millions d'euros, jusqu'à 50 millions d'euros. Donc c'est pareil, des amendes assez conséquentes. Et en fait, au début, je me disais, c'est un peu n'importe quoi, un peu comme ce dont on parlait tout à l'heure avec Trump, en disant il y a quand même du chemin avant que cette loi soit effectivement mise en place et que des contrevenants soient condamnés. Mais je serais assez curieux de voir le retour d'expérience, parce que 3 ans, finalement, en Allemagne, c'est quand même suffisamment long pour avoir un peu de... ou 2 ans et demi, c'est suffisamment long pour avoir... quelques exemples, et j'avoue que j'ai cherché vite fait, mais j'ai pas trouvé l'exemple en Allemagne de réseau ou de plateforme qui aurait été condamné. Mais donc voilà, donc on a un peu l'État qui veut taper du poing sur la table en disant que, selon l'expression consacrée, Internet c'est pas le Far West, et donc du coup ça mérite une législation adaptée. Je sais pas, bon, j'ai dit un peu ce que j'en pensais hein, entre les lignes. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphane?
Je trouve que les délais c'est quand même assez dur. Et d'ailleurs, même l'amende est dure aussi. Mais en même temps, il y a vraiment un problème sur Internet de contenu haineux. Et il faut faire quelque chose. Et c'est vrai que en même temps, tu vois, tous ces délais de 24 heures et d'une heure, ils s'appliquent que pour les gros sites. Je crois qu'il faut... il faut avoir entre 2 à 5 millions de visiteurs uniques par mois. Donc, c'est pas comme si ça touchait les petits sites. Et je pense que quand tu as 2 à 5 millions de visiteurs uniques par mois, bon, tu peux mettre en place un système qui permet de répondre à ces requêtes. Maintenant, donc je pense que c'est le sujet de ce qu'on va parler dans les prochaines minutes. En fait, c'est est-ce que ça va pas trop loin dans le sens où on arrive à Twitter et Facebook et d'autres réseaux sociaux qui suppriment juste tous les contenus qui leur sont reportés sans même vraiment essayer de regarder est-ce que c'est haineux ou non. Et donc du coup, c'est utilisé par des groupes pour faire taire des activistes. En fait, on a cet article des Inrecuptibles qui fait part d'activistes LGBT qui sont finalement censurés, en fait, puisque en utilisant du vocabulaire LGBT, des gens qui sont homophobes vont reporter ces tweets, et vu qu'ils utilisent du vocabulaire qui peut être vu comme haineux, même s'ils l'utilisent dans un contexte qui ne l'est absolument pas, Twitter préfère juste suspendre leur compte.
Ça c'est marrant, les histoires de réappropriation des termes comme ça pose tout un tas de problèmes. C'est vrai que c'est très compliqué. Alors je dis pas ça, c'est pas une excuse pour rien faire, mais c'est vrai que bon, ça devient quand même assez compliqué. Et il y avait un petit peu une sorte de je vais pas dire fanfaronnade, mais c'était un peu ça quand même quand la loi a été passée. Et c'est vrai que t'as quand même envie de te dire, bah pff, ouais, vous prenez ça un petit peu comme un, comment dire, c'est pas, c'est, en fait, vous êtes pas arrivé, vous avez juste commencé. On vient juste de commencer, on vient juste de commencer le chemin en fait, quoi. C'est pas un point d'arrivée. Ce genre de loi, c'est vraiment la première étape d'une liste d'étapes pour faire en sorte que le web soit un tout petit peu plus civil et un tout petit peu moins bah, haineux. Et en soi, ça doit être
Exactement.
célébré, mais globalement, estimer que ça y est, c'est bon, on a réglé le problème, on a fait une loi, et maintenant les gens qui vont contrevenir à cette loi vont être condamnés, bah, c'est quand même un petit peu naïf. Mais c'est vrai que ouais, je suis partagé en fait, parce que l'idée de le point de départ, je sais pas si tu te rappelles, je pense que c'était la conversation qu'il y avait eu autour du hashtag un bon juif. Je sais pas si tu te rappelles en France cette controverse d'il y a, alors je sais plus, 4 ans, je pense que c'était avant Macron ou juste après que Macron arrive au pouvoir. Et donc du coup il y avait une mission qui avait été créée, et donc la proposition de loi, c'est ça fait suite à ça en fait, mars 2018. Donc bon, c'est vrai que tu peux te dire, bon bah voilà, il y a eu tout un cheminement, et finalement c'est un peu le résultat de ce cheminement-là. Malgré tout, bah, les exemples que tu présentes, ça prouve que la loi en tant que telle, elle a quand même énormément de limites pour être vraiment efficace, quoi.
Bien sûr, mais après, il faut aussi peser le pour et le contre. Oui, effectivement, c'est, bah, y a encore beaucoup de travail à faire, mais cette loi, elle a quand même des aspects qui sont super importants. Par exemple, elle permet de protéger le chantage, je ne sais pas comment dire en français, mais tu sais, quand les gens s'échangent des photos dénudées et du coup, il y a une sorte de
Ah, le
chantagiste qui est
revenge porn.
autour. Exactement.
Ouais.
Du coup, bah, chercher le mot en français, mais
Ouais, je sais pas
la
comment on dit en
revanche
français. Non, je crois qu'il y a un terme en
pornographique.
français, mais
Mais donc, du coup, tu vois,
ouais.
ces problématiques sont incluses dans cette loi. Et on sait qu'en France, c'est un problème qui est extrêmement grave dans les cercles des jeunes, en fait. Tu vois, il y a beaucoup de comptes Snapchat qui expose en fait des photos dénudées d'adolescents et tout, et il faut vraiment une solution en fait légale à ce problème, parce que sinon
Ouais.
ça détruit pas mal de jeunes en fait. Et donc oui, il y a des comptes qui sont suspendus peut-être excessivement, oui, il y a des tweets qui sont probablement suspendus ou supprimés, mais il faut aussi voir l'autre côté où ça protège aussi pas mal. Et même la loi allemande, d'ailleurs, a été beaucoup critiquée sur les problèmes de censure. Même la Commission européenne avait dit à l'État allemand que bah, ça posait quand même pas mal de problèmes et qu'il fallait vraiment faire attention. En fait, je pense que c'est pas parce qu'il y a une loi qui est passée qu'elle ne peut pas être amendée, qu'elle ne peut pas être revue et corrigée. Et je pense que de toute façon, il faut un point de départ. Et puis peut-être que c'est ça le point de départ qui permet de continuer d'avoir des discussions, et je pense que ces problématiques de comptes suspendus à la va-vite, ben, peut-être que c'est aussi à Twitter et Facebook de faire la part des choses et d'avoir de meilleurs algorithmes, de meilleures équipes pour pouvoir gérer ces problèmes. Parce que finalement, en fait, la loi, elle dit pas de supprimer les. La loi dit pas de suspendre les comptes des activistes. Donc.
Ouais, c'est ça, et c'est là
Donc
où
ouais,
il faut
c'est une
introduire une
période de
certaine.
transition.
Ouais, et c'est là où tu introduis une certaine forme de discernement, et le problème, c'est que bah, le discernement, bah, il est forcément biaisé, quoi, Enfin, ouais, ouais, c'est ça, c'est compliqué, quoi. Tu t'introduis à une certaine forme d'arbitraire qui est censée être du bon sens, entre guillemets, mais le bon sens est partagé par la majorité, mais il n'est pas partagé par tout le monde, et donc, du coup, tu rends le bon sens. Enfin, bon, je vais pas lancer une discussion philosophique, hein, sur la différence entre la loi, enfin, comment ça s'appelle, l'esprit de la loi et la lettre de la loi. Mais non, c'est quoi le terme? C'est ça, l'esprit de la loi et la loi de la lettre, la lettre de la loi. Bref. Mais comme tu le dis, c'est assez compliqué. Et un autre truc que j'avais envie de préciser, on parle de tout ça comme si bah, les plateformes ne faisaient pas déjà de modération. Mais on en a parlé ici, je ne sais plus quel épisode c'était. Il y a un gros problème aujourd'hui sur les questions de modération d'Internet, où on voit que modération des réseaux sociaux, Facebook en particulier. Et on voit que Facebook emploie énormément, énormément de modérateurs et des gens qui passent leur journée à voir bah, justement le contenu dont on parle, donc du contenu terroriste, du contenu gore, du contenu pornographique, pédopornographique, etc., etc. Et dont le rôle, c'est aussi rapidement possible de retirer ce contenu-là. Et le problème, c'est que bah, ça détruit psychiquement de passer ses journées à voir du contenu qui est censé être censuré. Et d'ailleurs, j'avais entendu une stat qui disait qu'aujourd'hui, il y avait plus de. Je crois que c'est Twitter. Ah non, c'est Facebook dans le monde emploie plus de modérateurs qu'il n'y a de journalistes dans toutes les salles de presse combinées des États-Unis. Et c'était avant qu'ils redoublent leurs efforts pour embaucher encore plus de modérateurs. Sachant qu'il y a des gens qui sont basés aux États-Unis, mais il y en a aussi beaucoup qui sont basés aux Philippines en particulier. Donc je sais pas, c'est. Je pense que la loi, elle est aussi un petit peu pernicieuse dans le sens où elle présente un petit peu les choses sans forcément comprendre comment les choses se passent. Et bon, je dis ça sans l'avoir lu en détail et sans avoir lu le rapport de la commission, donc je parle peut-être un peu sans savoir. Mais on a un peu l'impression que ça se passe sans avoir une vision claire de l'envers du décor et de comment les choses se passent et de comment la modération est faite en tant que telle, en fait.
Ouais, exactement. Mais est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas comme ça que toute loi commence?
Ouais,
Tu
c'est
vois,
possible. Ouais. Tu
même.
pars, tu défends ton cas et tu vois ce que la partie opposée a à dire aux arguments que tu présentes.
Et puis tu ajustes en fait, parce que en fait il faut un point de départ et le point de départ, il peut pas être juste ah bah c'est pas bien si vous voyez un truc. Essayez de le supprimer, et puis si vous ne le supprimez pas, bon, bah, c'est pas très grave, on va vous renvoyer un autre email dans 30 jours, tu vois. Non, non, il faut. Tu vois, c'est un peu comme la vie privée qui était fait au niveau de l'Union européenne, tu vois. C'est quand même un projet de
Ouais.
loi qui était assez conséquent.
Ambitieux. Ouais.
On a donné beaucoup de temps aux entreprises pour pouvoir pour se mettre aux règles. Et peut-être que finalement, ce genre de loi qui protège les individus, en fait, elle devrait être faite au niveau de l'Union européenne, plutôt qu'à l'échelle de chaque État. Mais c'est vrai que c'est quand même, je trouve que c'est compliqué, c'est quand même beaucoup plus compliqué que tout ce qui est des questions de vie privée, parce que toutes ces questions d'insultes et tout, bah, il faut des gens qui parlent la même langue, qui ont la même approche culturelle que les pays. Qu'ils doivent modérer parce que tu peux pas juste traduire en fait. Tu vois, c'est autant modérer des vidéos de terrorisme ou de pédopornographique. Bon, t'as pas vraiment besoin de la langue pour comprendre ce qui se passe, mais avoir la nuance entre le message d'un activiste qui utilise une insulte et le message de quelqu'un qui est vraiment là pour insulter, c'est compliqué si t'as pas vraiment le côté culturel autour, le côté nuance des langages. Et donc ça, je pense que les politiciens, ils n'ont pas forcément une approche qui est très. Enfin, je pense qu'ils comprennent pas forcément à quel point c'est compliqué d'un point de vue technologie. Mais je pense que si, c'est aussi probablement une question d'éducation où le secteur des technologies a trop souvent dit ah oui, mais de toute façon, le machine learning. L'intelligence artificielle, elle va rendre la modération facile en un claquement de doigts et tout. Et donc, du coup, ben, y a un peu cette idée que bah, le spam, la modération et tout, finalement, y a pas d'être humain derrière, alors qu'en fait, c'est totalement faux, tu vois.
Ouais, absolument. Ouais, c'est ça. Ou c'est comme une certaine époque quand on parlait de réguler YouTube justement sur les questions d'endoctrinement terroriste. Et on disait, bah, en gros, c'est pas compliqué, il suffit simplement que vous ayez quelqu'un qui consulte et qui revoit le contenu qui est uploadé sur YouTube. Et c'est là où tu dis, bah oui, il y a clairement il y a un petit peu une confusion du côté du législateur, parce que t'as, à l'époque, et ça, je suis sûr que c'est beaucoup plus, mais c'était, je sais plus, plusieurs. plusieurs heures de vidéos qui étaient uploadées toutes les secondes sur la plateforme. Donc forcément, tu peux pas, c'est pas possible. Avec une augmentation exponentielle, c'est impossible d'avoir suffisamment de personnes pour visionner, même en accéléré, le contenu qui est uploadé sur Twitter, quoi. Sur YouTube, plutôt. Donc oui, donc t'as raison, c'est vrai que c'est bien d'avoir le législateur qui part de son point de vue et qui considère les choses du côté utilisateur ou même du côté législateur et du point de vue de la société. Mais malgré tout, c'est quand même intéressant d'avoir une bonne compréhension des implications techniques et ou même opérationnelles, en fait, des législations qui sont proposées, quoi.
Ouais. Mais d'ailleurs, je pense que ce genre de loi, elles doivent arriver avec des... Enfin, je pense que c'est important au pays, enfin, des pays qui ont ce genre de loi, d'arriver aussi avec des solutions qui peuvent donner à ces sites internet, en fait, pour pouvoir légiférer aussi sur les modérateurs, en fait. Qu'est-ce que les modérateurs... Bah, en gros, je dis ça par rapport à ce qui s'est passé avec Facebook, où tu avais tous ces modérateurs qui voyaient des choses qui c'était pas vraiment, enfin, tu peux pas vraiment voir à longueur de journée, tu vois. Et, ouais. Ces gens-là sont complètement oubliés de ce genre de loi, et je pense que c'est aussi important de légiférer sur ces choses, tu vois.
Ouais, non, tout à fait. Ok, voilà, donc on a parlé beaucoup de lois, de modération et de censure, et je te propose qu'on passe au follow.
Allez. Nous as mis.
Qui c'est qui commence? Je commence. Bon, allez, je commence. Ouais. Est-ce que tu connais ce bonhomme Mark Rober? Est-ce que ça te dit quelque chose?
Oui. Bah en fait, quand j'ai commencé à regarder la vidéo, oui, je connaissais, mais en fait, j'avais pas réalisé que c'était la même personne.
Ouais, c'est ça. Donc Mark Rober, en fait, vous connaissez peut-être si vous suivez un peu Internet. Il avait fait parler de lui il y a un peu moins d'un an, quelques mois. En fait, il expliquait que un peu comme tout le monde, il se faisait voler des paquets déposés devant l'entrée sur son pas de porte et qu'il en avait marre. Et donc, du coup, il a fait un package piégé. Alors je sais plus exactement comment est-ce qu'il avait fait le truc, mais en gros, c'est un mélange de un truc, quand tu l'ouvres, ça t'explose plein de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des glitter, des paillettes. Donc t'as plein de paillettes, tu sais, les paillettes collantes. Je sais pas si t'as des enfants en bas âge autour de toi, mais tu sais, les trucs où tu te retrouves, t'en as plein sur la figure et tu sais pas comment t'en débarrasser. Donc voilà, donc ça t'envoie des espèces de paillettes plein partout chez toi, donc soit dans ta voiture, soit dans ta maison, et le truc, c'est impossible de nettoyer. T'es condamné à avoir des paillettes pour les années à venir partout autour de toi. Ça avait aussi je sais plus ce que ça faisait, mais c'était une genre de boule puante ou un spray parfum boule puante qui t'empestait là. En gros, voilà, il avait piégé le truc, et il avait mis des capteurs et des caméras à l'intérieur pour pouvoir uploader la réaction des gens. Et donc voilà, donc sa vidéo avait pas mal tourné. Et donc du coup, Mark Rober s'est remis. Alors, il fait beaucoup de vidéos, en fait. Moi, je le suis pas, mais là, il y a une autre vidéo qui... Enfin, je ne le suivais pas. Mais donc là, il y a une autre vidéo qui est passée dans mon radar. Et donc, il a créé une course d'obstacles pour les écureuils. Donc, je sais pas si tu connais Ninja Warrior, qui est une émission, je crois, qui passe sur... Je sais plus. Une des télés du câble ici aux États-Unis. Qui est pas mal du tout, d'ailleurs. Enfin, bon, c'est un peu genre Fort Boyard, mais version américaine. Je sais pas si tu connais. Ça vaut le détour.
En fait, je pense que j'ai vu des vidéos sur YouTube, mais j'ai jamais vraiment vu ça à la télé.
Ouais, bon, voilà. C'est très... on commence à s'habituer, donc du coup, on fait plus forcément attention. Si vous êtes en France et que vous regardez Ninja Warrior, vous allez dire que c'est très américain comme concept. Mais ça reste malgré tout assez divertissant. Et donc là, il a recréé un peu le concept pour les écureuils. Donc il a créé tout un parcours pour les écureuils. Et voilà, c'est assez rigolo. Enfin, il passe quand même beaucoup de temps à expliquer comment il a créé le truc. C'est un bricoleur, donc on vous explique un petit peu. Alors là, j'ai mis une catapulte. Là, j'ai créé un espèce de labyrinthe, etc., etc. Là, ça, il a mis des caméras partout pour pouvoir filmer le truc en temps réel. Mais donc du coup... le côté bricoleur passé, en fait, on se rend compte qu'il y a aussi pas mal d'observations des écureuils. Et c'est vrai qu'en Amérique du Nord, on a quand même beaucoup plus d'écureuils, ou en tout cas, on les voit beaucoup plus, je pense, qu'on peut les voir en Europe. Et c'est vrai que c'est assez marrant de voir comment les écureuils, colonise un peu nos jardins. Moi, j'ai une caméra qui a chopé un. Il le montre d'ailleurs lui aussi à un opossum. Donc c'est un espèce de, je sais pas, un espèce de rat géant.
Ah ouais.
Ouais, qui se baladait dans le jardin. Donc je suis assez. En gros, ça m'a parlé cette vidéo parce que c'est vrai que si on met une caméra qui surveille le jardin, on arrive à choper des trucs marrants. J'ai des ratons laveurs aussi qui passent de temps en temps. Donc voilà. Donc c'est assez cool. C'est une vidéo qui est assez marrante. Voilà, bon, ça dure 20 minutes donc faut avoir un petit peu de temps devant soi, mais voilà, moi ça m'a bien fait marrer et du coup je me suis mis à suivre Mark Rober sur YouTube.
Cool.
Et toi Stéphane, qu'est-ce que c'est que Cracking the Cryptic?
Ah, tu connais pas?
Non, je connais pas.
C'est génial. Bon, en même temps, bon. Alors, il y a 2 semaines, je suis tombé sur une vidéo de cette
chaîne. Ah, mais si, c'est le truc du Sudoku. Ok, ok.
Exactement.
J'avais pas capté. Ok.
Et donc, en gros, c'est deux Anglais, je crois, qui résolvent des Sudoku tous les jours. Et c'est vraiment passionnant parce qu'ils sont vraiment, vraiment à fond dedans. Tu vois bien qu'ils adorent faire ça. Et puis en plus, ce sont des gens qui sont quand même assez experts dans le domaine. Et ils expliquent un peu leur technique. Ils expliquent vraiment bien leur raisonnement. Et donc, je suis tombé sur une de leurs vidéos il y a 2 semaines, je crois. Et ensuite, je m'étais abonné à la chaîne. Et depuis, je pense que j'en regarde une tous les 2 jours. Et puis, c'est vraiment cool, en fait. Parce que
c'est juste des sudoku ou ils font d'autres choses?
Bah, je sais pas si c'est des sudoku, mais un peu différent quand même, parce qu'ils ont des variantes, et puis en gros, il y a un mélange de jeux d'échecs et de sudoku, et c'est assez intéressant.
D'accord, ok, bon, donc voilà, c'est le genre d'occupation type pour la quarantaine, pour le confinement. Ok, bah écoute, je regarderai ça, je regarderai leurs autres vidéos. Ok, bon bah écoute, voilà, on a fait un peu long, mais il faut dire qu'on avait beaucoup de choses beaucoup de sujets à évoquer. Stéphane, si on veut te suivre, où est-ce qu'on te retrouve?
Alors moi je suis sur Twitter, @Stéphane.
Cool, et moi c'est @RealDonaldTrump sur Twitter. Non, je déconne. Moi c'est @LethargicPanda sur Twitter. Et vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur #podcast.com. On est aussi sur Spotify si vous écoutez votre podcast sur Spotify, mais on est aussi sur tous les bons lecteurs de podcasts. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter à hashtags avec un S-du-bas pod, P-O-D, où on tweet de temps en temps. Ciao, à bientôt.
Ciao, à bientôt.